Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moins il y aura de matchs à jouer, moins il y aura de points à prendre pour nos concurrents. Une zone mathématique.
69, 64, 63, 11 fois 14.
114.
154.
Compte tenu que j'ai eu mes diplômes dernièrement, maintenant je me prends pour un professeur de mathématiques.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, on est ensemble jusqu'à minuit. L'after foot commence maintenant avec Kevin Diaz, avec qui on a vécu le match. On rappelle que Lens a battu Brest 3-1 et évidemment Lionel Charbonnier qui revient. Comment
salut
ça va, monsieur?
Tous.
En pleine forme?
Bah ouais, écoute, c'était un beau match, hein.
Un match correct.
Et oui,
ouais, on a vu pas mal pour un vendredi. On est vendredi.
C'est
hein,
vrai qu'on a vu des vendredis plus difficiles.
tu vas voir, Karine. Au fil de l'année, il y a des vendredis.
Ah non, mais je suis au courant, mon cher Lionel. J'ai eu des vendredis compliqués. J'ai eu des samedis compliqués aussi. C'est le bonheur de la Ligue 1. Tu sais jamais si tu vas tomber sur une pépite ou sur.
C'est plutôt un beau match. Moi, j'ai. Il y avait du.
Non, mais le problème du vendredi, c'est avec les Coupes d'Europe, en fait.
Et oui.
Comme les équipes jouent la Coupe d'Europe, ne jouent jamais le vendredi.
Donc, parfois, on nous propose évidemment du 3e, 4e couteau.
Tu peux avoir une affiche un peu compliquée.
Eh ben en tout cas ce soir, on s'est régalé. On rappelle que Brest avait ouvert le score grâce à Mama Baldé à la 24e. Thauvin égalise à la 60e. Guy Lavogué à la 78e minute a donné l'avantage à Lens. Et puis c'est Thomasson qui a scellé la soirée lensoise avec ce 3e but. Lens qui va bien, 2 victoires en 3 journées. Malheureusement pour les Brestois, il n'y a qu'un seul petit point. On vous attend au 32-16, supporter lensois, supporter brestois. Mais tout de suite, on va partir à New York parce que c'est très important, Eric Salio. Manarino a égalisé 2-7 partout face à Shelton qui est blessé.
Oui, il est blessé à l'épaule et au moment où on se parle, je pense qu'il hésite à reprendre la partie. On a vu son père, qui est son coach, lui dire arrête, ça ne sert plus à rien. Il était au bord des larmes là depuis lors de ce changement de côté, mais pour l'instant il n'y a pas d'abandon. Hein, attention, hein. J'anticipe peut-être un peu, mais c'est vrai qu'il joue plus comme avant. Il fait de la figuration et Manarino a été très solide dans sa tête pour recoller à 2-7 partout, donc en remportant son jeu de service à sa 6e balle de 7. Donc là, Adrian Manarino a vraiment une chance énorme d'accéder au 8e de finale de l'US Open parce que Shelton est clairement diminué. J'attends des informations et pour l'instant, il n'y a pas d'abandon.
Effectivement, nous, on vient de voir hein, les images du papa qui dit arrête à son fils. Donc, on suivra ça avec toi. Il y a une autre bonne nouvelle. C'est un Français. Il vient de Gassin, dans le Var, et il s'est qualifié. Mais là, il a une montagne face à lui.
Oui. Arthur Rinderknecht qui s'est qualifié tout à l'heure face à Benjamin Bonzi en 4 manches. C'est la première fois qu'il accède. Et c'est l'abandon de Ben Shelton. Voilà, c'est officiel. Puisque Manarino était parti au vestiaire, il a attendu le retour du Français. Mais donc, il ne peut pas continuer. C'est une énorme désillusion pour Ben Shelton qui avait remporté le Masters 1000 de Toronto, qui était tête de série 6 et qui donc doit jeter l'éponge. Manarino, 2e Français en 8e de finale de cette US Open. C'est la fête au village et il jouera dans 2 jours le Tchèque Jiří Lehečka.
On est heureux pour le Français, mais on voit, hein, c'est très dur. Ben Shelton qui a la tête dans sa serviette, lui qui joue à domicile, hein, l'Américain. C'est des images évidemment très tristes et il sort sous l'ovation de son public.
Il voulait gagner l'US Open,
car oui.
Il avait annoncé la couleur. Il s'en sentait capable, même s'il y a des cadors comme Sinner et Alcaraz, mais il avait de grosses ambitions. Donc là, pour lui, c'est le ciel qui tombe sur sa tête.
Malheureusement, donc, c'est
et
fini
bravo,
pour Shelton.
Et bravo, Manarino, 37 ans.
Eh oui. Manarino, donc on retrouvera au prochain tour. Merci beaucoup Eric Salion, en tout cas on est content. On a 2 Français qui continuent à l'US Open et ça ce sont des bonnes nouvelles. On va revenir au foot avec vous au 32-16. On rappelle qu'on parlera également de l'Olympico J-2 avant le match que tout le monde attend entre Lyon et Marseille. Et puis on aura également toutes les infos Mercato, le Mercato qui se termine lundi soir. Messieurs, on le débrief ce match entre Lens et Brest 3-1. Lens qui a été en difficulté quand même, Kevin, on le rappelle, mais il y a un scénario de match. Maieski qui dégoupille complètement, sorti pas maîtrisé. Il est expulsé à la 55e minute. Brest est réduit à 10. Et donc là, forcément, Lens qui est en situation favorable pour remporter cette rencontre et revenir.
Ouais, c'est bien résumé. C'est vrai que c'est un match où on a vu un tout début de match assez équilibré. Puis Lens a pris l'ascendant, mais s'est fait contrer sur des phases de transition rapide qui ont très très bien géré les Brestois, notamment avec Doumbia qui fait une passe magnifique et une belle finition de Mama Baldé. Et derrière, c'était plus compliqué. Et tout de suite, il y a eu ce carton rouge en deuxième mi-temps qui a complètement rééquilibré les débats avec ce penalty. Et derrière, ils ont un peu pris l'eau les Brestois.
Lionel, est-ce que c'est Majeski finalement qui est coupable de cette défaite?
Oui, oui.
C'est complet. À la 55e, donc est-ce qu'il est responsable de tout?
Ah bah oui, je pense. Moi, la débâcle jusque-là, les Brestois faisaient belle figure. Ils évoluent en contre et tout ça, mais comme le disait Kevin, comme tu l'as dit, je pense que pour moi, c'était un bon match, assez équilibré. Il y aurait eu un nul sur ce match-là. En tout cas, avant la sortie de Majewski, j'aurais pas crié au scandale, même s'il y a eu, et là-dessus, il va falloir se pencher côté Lensois, il y a eu quand même des maladresses. Ces Lensois ont vraiment besoin d'un vrai buteur, mais moi je pense que c'est lui quand même qui a plombé ce soir les Brestois.
On rappelle donc que Majewski est arrivé cet été pour remplacer Bizot. Malheureusement, ça avait été compliqué déjà lors de la défaite contre Toulouse 2-0. Et ce soir, il est vraiment fautif, le gardien polonais qui évoluait la saison passée à Monaco et qui est prêté par le club de la Principauté.
C'est surtout les conditions. Excuse-moi, Karine, je te coupe. Mais c'est surtout dans les conditions. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une sortie que le gardien se fasse expulser. De temps en temps, ça peut arriver. Une sortie dans les pieds, tout ça. Mais là, c'est vraiment une sortie, mais sur le côté où il n'a rien, complètement sur son côté gauche, il n'a vraiment pas besoin d'aller se jeter là-bas, faire cette faute-là. C'est vraiment une très mauvaise analyse de la situation et une mauvaise intervention, vraiment pas maîtrisée. C'est beaucoup d'erreurs en une seule erreur. Non, pour moi, il a plombé ses copains. D'ailleurs, on a vu Eric Roy. Ok, il est très frustré à la fin du match. Il y a cette défaite, mais pour moi la frustration, attention côté brestois, elle est plus profonde que ce résultat-là quand même.
Un seul point pris en trois journées pour Brest. Si on peut trouver une bonne nouvelle, on cherche, c'est que Couder a quand même fait une bonne entrée en jeu. Donc peut-être que finalement, le gardien de but, ça sera Couder et qui pourra faire des belles choses dans les cages. Ouais, j'essaye de trouver quelque chose de positif, ouais. Kevin.
C'est toujours pareil. En première mi-temps, on peut dire quand même que Majewski, à un moment, il fait quand même une sacrée parade.
Une belle claquette à droite.
Magnifique.
Il fait plutôt une bonne première mi-temps dans l'ensemble, d'ailleurs, avant complètement de sortir de son match. Comme en plus, c'est ce qu'on dit aux gardiens. Et ça sert absolument à rien d'aller à cet endroit-là de la surface. Si tu vois que t'es en retard, laisse passer l'attaquant parce que de toute façon tu ne peux que faire faute, pénalty, en plus la carton rouge parce qu'il est bien en retard, mais c'est vrai que cette équipe de Brest, malheureusement, c'est j'ai envie de leur dire c'est presque le tonnerre qui te tombe sur la tête là, parce que t'es dans une phase où tu fais plutôt un bon premier match, bon, même si ça va d'un côté à l'autre, du coup c'est un match spectaculaire,
ouais, mais mentalement ils arrivent à arracher le nul à 3-3
contre Lille. Ensuite, par contre, t'as deux résultats négatifs. Avec là, tu mènes 1-0. T'as ton gardien qui est déjà très critiqué à Monaco. Tu lui laisses la chance. Allez, disons qu'il y a moins d'exigence, il y a moins de pression à Brest. Mais non, ça le fait pas. Au troisième match, il prend un rouge qui derrière te coûte la victoire. T'as ton entraîneur qui, on le comprend, râle un petit peu sur le mercato, sur le niveau de budget. Alors on sait pas s'il râle sur le club ou s'il râle sur la situation de la Ligue 1 avec les droits télé. Mais en tout cas, ça sent pas bon à l'intérieur du club. Et finalement, t'es avec trois matchs, un seul point, t'es agacé après le match, tu vas voir l'arbitre, j'espère pour lui qu'il sera pas suspendu, mais oui, t'es quand même très,
lui
très agacé
l'an dernier, hein.
Non, franchement, là, le début de saison des Brestois, il est, alors qu'ils ont encore quand même des bons joueurs,
bien sûr,
ils ont quand même perdu Lesmelou aussi cette semaine, donc ouais, ils prennent de plein fouet là la crise financière de la Ligue.
C'est le problème, Karine, de Majewski, justement, c'est que pareil à ce qu'il faisait à Monaco, il alterne le très bon. Là, ouais, des fois, il a fait des arrêts extraordinaires, comme là, il a pu faire cet arrêt extraordinaire en première mi-temps. Et derrière, il va te faire une cagade. Et ça, c'est le pire, je dirais, pour les défenses, parce que un défenseur qui ne sait pas comment est son gardien, est-ce qu'il est dans un bon jour, est-ce qu'il n'est pas dans un bon jour, est-ce qu'il va nous faire une cagade, est-ce qu'il va nous sauver, on ne sait pas. Donc, ça fait douter la défense, et donc c'est un vrai problème. Et je pense que ce problème-là, Eric va vite, Eric Roy va vite le résoudre, parce que je pense que Couder maintenant doit être installé au moins pour 3-4 matchs titulaires.
On suivra ça de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que Couder sera là dans les buts face au Paris FC, vu l'expulsion de Majewski, supporter brestois. Au moins, on va voir effectivement la commission de discipline. Supporter brestois, on vous attend au 32-16. On va parler de Lens parce que ça va bien à Lens. 2 victoires en 3 journées. Lens qui est invaincu dans ce début de championnat. Et on accueille Daniel, supporter du Racing Club de Lens. Bonsoir Daniel.
Bonsoir. Bonsoir Karine, bonne saison à vous.
Merci beaucoup.
Bonsoir, bonsoir Daniel.
Bonsoir Kevin, également bonne saison. Et merci. Bonsoir Lionel Charbonnier, champion du monde.
Ah ben oui. Ça,
bonsoir Daniel.
Inoubliable 98 à jamais dans nos cœurs. Ah,
vous avez de la mémoire quand même.
Ah ben, enfin.
Ça commence bien.
Mais Lionel. Oui. Arrête Lionel. Ça se trouve, t'as entraîné Zidane à mettre sa tête sur cornet, hein, c'est grâce à toi. Ouais, et bref. Ouais.
Daniel, on te souhaite aussi une belle saison et pour l'instant, ouais, ça part bien pour le Lens version Pierre Sage. Vous êtes invaincu et il y a deux victoires de suite.
Ouais, je sais bien qu'on est invaincu. Enfin, il y a non, on est sur deux victoires. Ouais,
oui, non, pardon, vous avez eu la défaite, pardon, contre Lyon et deux victoires de suite. Pardon, je me suis emballé.
Et on a failli avoir la même chose que contre Lyon, c'est-à-dire un manque de finisseurs.
Ah oui.
C'est le seul bémol que je vais mettre dans ce match, parce qu'il faut que les supporters de Lens comprennent.
C'est exactement
cette équipe,
ça.
Si tu mets un mec qui met 10 buts dans une saison, qui est capable de te mettre les 10, 12 buts, elle n'est pas 7, 8, 9 ou 10e. Cette équipe, elle est 6e, 5e et par miracle 4e. Parce qu'il nous manque un finisseur. Le petit Ryan Fofana, il a 19 ans l'année dernière, il joue en N3. Malheureusement, on peut pas, je veux pas lui en vouloir, ce petit, il a 19 ans. On peut pas mettre le poids de l'attaque du Racing Club de Lens qui a fini depuis sa remontée en Ligue 1 une seule fois 8e, sinon c'était 7e, 2e et 7e et 8e. On peut pas lui mettre tout le poids de l'attaque de Lens sur le dos. Il faut absolument quelqu'un qui finisse. Avec les galettes que Tovin donne, avec l'entrée de Saoud Abdelhamid, que je connaissais absolument pas, qui nous fait un match, mais l'entrée qui fait incroyable. Le petit Bermond, c'est un petit jeune qui vient du centre de formation, il nous fait un match incroyable. Mais Ryan Fofana, ça serait un bon remplaçant pour finir les actions, qui rentre dans le jeu, dans le bain doucement de la Ligue 1. Parce que passer de la N3 à titulaire en Ligue 1, c'est
très dur, bien sûr.
Bravo Daniel, moi je suis entièrement à 300% d'accord avec toi. C'est-à-dire que en plus, le fait d'avoir un vrai finisseur, ça va libérer les autres joueurs qui vont marquer. Parce que aujourd'hui, le petit Fofana, ce que je te disais en off, Karine, il pense, il se dit, il faut pas que je la rate, parce qu'il y en a pas, il y a pas le buteur là qui libère les autres à côté. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu en tant qu'entraîneur, et ça fait mal à la tête, quoi, parce que mon président est venu me voir, il me dit ouais, mais t'as un mec à gauche qui marque 11 buts par à l'année, un mec à droite qui marque 11 buts à l'année, ça fait 22 buts, on est à la mi-saison, on devrait déjà être à 11 buts. Non, ça marche pas comme ça. Football, c'est pas ça. Le football, c'est que un buteur, il te libère. Le gardien, il te donne confiance, il t'arrête les buts, il te fait gagner des points. Ça, c'est très important. Je pense que de ce côté-là, Lens est bien loti. Je pense que le gardien va faire la maille. Par contre, il faut absolument se pencher sur un buteur qui va libérer les Fofana, les Tovin et compagnie, même les Thomasson, parce que Thomasson, on l'a vu rater un but que l'année dernière, il ne ratait pas. Par exemple, derrière, tout de suite en première mi-temps.
Quand le score est ouvert, derrière, elle le met.
Mais bien sûr. Et ça libère tout le monde. Et tu l'as dit dans tes propos tout au début, c'est exactement ça.
Mais Kevin, c'est prévu de toute façon qu'il y a un vrai attaquant qui arrive. Il y a Sima.
Il y a Stassin.
Attaquant polyvalent.
Ouais, Stassin, c'est trop cher.
Stassin, on rappelle qu'il appartient à Saint-Etienne, club de Ligue 2, et qui pourrait partir. Donc ça va arriver. Pierre Sage et le board savent qu'ils ont besoin d'un vrai avancement.
C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas d'argent à Lens.
Oui, voilà, mais ça fait deux ans quand même que Lens cherche un buteur. En gros, depuis le départ d'Openda, ensuite il y avait eu également Kalimuendo qui a marqué quelques buts. Mais de toute façon, Lens.
Il y avait eu Wailly aussi.
Oui, mais
il n'a pas réussi, mais il était.
Il n'a pas réussi, malheureusement.
Le truc avec Wailly, il réussit pas, il te met 12 buts dans ta saison. Le Wailly, quand même. Bon, il a écroqué énormément d'actions. Mais le truc avec, je ne comprends pas Joseph Gourlian, parce qu'avec Wailly, finalement, tu l'achètes 25. Tu revends 25. T'as pas
non, mais Wailly, les gars, Wailly, on l'a vu à Marseille. C'est pas qu'une question de footballeur. Est-ce que t'es capable d'attaquer? Est-ce que t'es capable de défendre? Est-ce que t'es capable de passer dans un projet collectif proposé par un entraîneur? Et moi, plutôt que de parler des individualités, j'ai envie de parler de Pierre Sage et ce qu'il met en place après peu de temps quand même. Hein, c'est sa première expérience hors de Lyon, où il était chez lui, il connaissait tout le monde. Il avait été choisi par John Textor, et puis en plus, c'était une opération presque maintien. j'ai envie de te dire tout ou rien, où ils étaient quasiment déjà relégués en Ligue 2 pour certains, et il était revenu de nulle part. Là par contre, il prend en charge un projet, il a pris un coup sur la tête l'année dernière en se faisant sortir de son club, et moi je trouve au contraire que ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes, t'as parlé du petit jeune que moi je découvre, mais il y a aussi Sangaré qui a été excellent aujourd'hui.
Exceptionnel.
Sangaré, très très bon. Alors il faut pas qu'il joue long pour l'instant, faut qu'il joue en cours, parce que long, il a perdu un sac de ballons, mais franchement il a récupéré beaucoup de ballons, il est intéressant. T'as moi ce jeune Bermond qui était prêté l'année dernière en Ligue 2 Annecy, qui est excellent. Moi je le trouve vraiment très très bon, joueur formé au club. On sait quand même que même si tu parlais de la réserve de Lens qui sont descendus en R1, qui ont du coup pas été inscrits pour la R1, ça pour le coup c'est pas un super truc pour le Racing Club de Lens, mais en tout cas il y a quand même de la qualité. Certes c'est jeune, certes ils leur font un attaquant, mais ils ont encore une défense avec un Udol qui je trouve a été très bon aujourd'hui. Bon, Sarr c'est pas mon préféré, mais c'est un gars qui est assez pro, et Gradit on sait ce qu'il vaut. Donc pour l'instant il y a quand même encore de la qualité dans cette équipe, et s'ils trouvent l'attaquant qu'il leur faut, là je pense qu'ils pourront faire une belle saison.
Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous, supporter lensois. On rappelle Lens compte 6 points après 3 journées. Le prochain rendez-vous, ça sera sur la pelouse du PSG. Messieurs, des déclarations choc. Kenny Lala, le Brestois sur Ligue 1 Plus, a les boules. Il nous dit, c'est un scénario qui fait mal. On est dans l'incompréhension parce qu'on a fait une réunion il n'y a pas longtemps sur la règle du dernier défenseur. On est 3 dans le but. On sait qu'il y a faute, mais il ne donne pas d'explication. L'arbitre, avec tout le respect, nous traite comme des chiens. C'est comme ça. Là, quand tu as des tels propos envers le corps arbitral, il va y avoir sanction là, non ?
Bah, tout dépend. Je pense que les propos ont été enregistrés maintenant.
Ah bah oui, ils sont passés à la télé de Ligue 1 Plus.
Les propos entre l'arbitre, quand il dit il nous traite comme des chiens, c'est entre l'arbitre et les joueurs. Il y a eu certainement des paroles aussi qui ont été.
Non, c'est plus par rapport à la décision arbitrale.
C'est juste ça ?
Moi, je trouve qu'il a des propos un peu trop forts. Par contre. Je suis plutôt du genre à dire que les arbitres, c'est très très compliqué leur boulot, qu'on a besoin d'eux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a un truc qui est très frustrant, c'est que les arbitres, pendant la trêve, ils passent dans les clubs. Pas tous, mais il y a un arbitre en général du coin qui passe, qui t'explique les nouvelles règles. Et là, il dit que lui a été expliqué cette règle du dernier défenseur. Moi, le carton rouge, je le trouve sévère. Et en plus, carton rouge et pénalty, pour moi, le pénalty...
C'est la double peine qui est...
Je demande à revoir. Mais à partir du moment où tu donnes le pénalty... Tu peux donner un carton jaune au gardien, parce que c'est pas un acte violent.
Non.
Certes, il est en retard, donc tu peux donner carton rouge si tu te dis ah c'est à l'extérieur, il annule une occasion et en plus il y a pas pénalty. Mais là, du coup, il y a pénalty et carton rouge.
D'autant
donc,
plus en fait, que la course du joueur, elle va pas vers le but.
Ouais,
elle va en 6 mètres. Ouais.
Pour moi, ça va en 6 mètres.
Exactement.
Bon, le gardien est en retard, il fait faute. Mais moi, je peux comprendre Kenny Lala si en plus il dit, ça reste à vérifier, qu'il y a eu des directives, que pénalty, carton jaune, ou alors carton rouge, coup franc. Ça, je peux le comprendre. Parce que quand c'est à la limite de la surface, c'est souvent ça. Donc, je peux comprendre leur frustration. Après, faut toujours faire attention sur les mots qui sont employés.
Oui, Kenny Lalade, frustré, il le dit, hein, c'est frustrant. On a l'impression de jouer à 12 contre 11. Mais c'est le football. On a fait des erreurs aussi. C'est la manière dont il nous parle. Donc, il parle du corps arbitral.
Tu vois?
Les gestes qu'ils nous font. Je n'accepterai pas qu'on me prenne moi ou mes coéquipiers pour des chiens. Donc, ce sont des propos forts.
La manière dont
la
il nous parle. Tu vois, c'est sur des propos. Il y a eu des propos qui ont été tenus, les gestes qui ont été faits. C'est une attitude, une attitude arbitrale que lui... Je pense qu'il va y avoir ça, tout ça, ça va être examiné.
Enfin, après, face au corps arbitral, t'es jamais gagnant quand t'es joueur.
C'est sûr. Et puis il y a aussi une chose où il faut être très honnête quand t'es joueur, c'est que toi aussi, comment tu parles aux arbitres, c'est souvent
ça va dans les deux sens.
C'est souvent bien inapproprié. Sûr. Donc après, voilà.
C'est souvent les joueurs qui sont quand même plus virulents que les arbitres.
On vous attend au 32-16, supporter brestois. Après cette défaite et après les propos de Kenny Lala, supporter lensois, on est ensemble jusqu'à minuit. On ira en Italie également pour savoir comment ça s'est passé pour l'AC Milan qui était déjà sur le grill après sa défaite en ouverture du championnat de Serie A. Et puis vous saurez tout sur le mercato avec notamment Mikko Tadze et Villarreal qui sont d'accord pour un transfert. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit sur RMC avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier. Vous le savez, après minuit, vous avez rendez-vous avec les nuits du Casar enchaîné. Julien Casar, évidemment, aux côtés de JC Drouet. On vous rappelle l'ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Lens a battu Brest 3-1. Et pourtant, c'est Brest qui avait ouvert le score. Baldé à la 24e. Thauvin égalisé sur pénalty à la 60e. Après que Majewski, gardien brestois, ait pris un carton rouge. Guy Lavogui à la 78e. Et enfin, Thomasson à la 4e. 92e. Tout va bien pour Lens qui compte donc 6 points après 3 journées. Pour Brest, c'est beaucoup plus compliqué. Un seul point pris après 3 matchs. On accueille tout de suite Julien, supporter lensois. Bonsoir Julien.
Salut Julien.
Est-ce que tu es satisfait de ce début de saison et notamment de ce que propose Pierre Sage qui est arrivé en remplacement de Will Steele cet été?
Comptablement très satisfait. Au niveau des intentions de jeu déployées avec Pierre Sage, très satisfait aussi. Je trouve qu'en quelques matchs, on voit tout de suite des différences importantes par rapport à l'année passée avec Will Steele qui misait tout sur l'intensité mais rien sur le front de jeu, je trouve. Donc là-dessus, très satisfait. Maintenant, là où j'ai plus de réserves, et je pense que beaucoup de supporters sont sur cette ligne-là, c'est au niveau de nos capacités offensives techniques. Parce que ce soir, le match il change à partir du moment où le gardien de Brest fait sa sortie un peu hallucinante. Mais avant ça, on a du mal à être efficace. On a pas mal.
Mais les occasions, tu les as, Julien?
Ouais, tu les as, mais t'as pas les attaquants pour les mettre au fond.
Ah oui,
c'est ça le souci.
Oui, oui. Mais le plus dur, c'est de se les créer déjà. Après, si t'arrives à trouver ce qu'on disait en préambule dans l'émission, si t'arrives à trouver ce buteur qui va libérer tous ces gars qui ont ces occasions aujourd'hui, je pense que c'est de bon augure pour la suite du championnat.
Enfin, exactement. Je sais pas si le club a l'intention de recruter un attaquant supplémentaire.
C'est prévu. Il faudrait.
Et qu'on a maintenant Abdallah Sima dans un registre aussi offensif, mais il faut absolument qu'on soit plus efficace parce que oui, on se crée des occasions, mais tu vois ce soir à la mi-temps, je crois qu'on a déjà un nombre très important de tirs non cadrés et en deuxième mi-temps jusqu'à l'expulsion.
Ouais, complet. C'est vrai.
Par contre,
j'ai envie de te dire, c'est un petit peu le problème de toutes les équipes de Ligue 1, d'avoir un mec qui va finir les actions.
Du talent devant.
Exactement.
C'est le problème du budget. C'est celui-là qui coûte cher.
À partir du moment où t'es dans une situation, et on va en parler après, où un des joueurs qui veut rester dans ton club, qui est formé dans ton club, va devoir partir pour équilibrer tes comptes. En l'occurrence Miko Tadze et l'Olympique Lyonnais, je peux te dire que ce soit Lens qui a du mal à ils sont tous en train de aujourd'hui c'est un bon joueur hein. Je fais une petite blague mais aujourd'hui on est en train de se taper en France pour Sinayoko quoi. Sinayoko c'est le nouveau le nouveau Marco Simone quoi.
Il a mis 5 buts l'année dernière et on se l'arrache à 7 8 millions, c'est
c'est surtout dingue, ouais. On se l'arrache du genre il y a 3 clubs qui sont dessus.
Calmez-vous, vous n'allez rien arracher du tout, il va rester à la GIA et voilà.
On rappelle que Sinayoko devait partir à Nice, puis à Lens, et puis finalement il reste a priori dans son club formateur, il va même prolonger, mais effectivement, c'est Sinayoko, on avait l'impression que c'était le joueur qu'il fallait absolument devant pour certains clubs en Ligue 1.
Donc à partir de là, tu as eu le petit Lepal aussi, hein.
Oui, non, mais
c'est une folie aussi, 15 millions d'euros.
Oui, non, et puis t'as Ablin à 40 millions aussi, soi-disant, ou au moins à 25. Donc, c'est vrai que, on commence à voir des choses qui sont, on en sourit, mais je suis pas sûr qu'on devrait en sourire parce que c'est quand même très, très inquiétant. Alors, quand le président du Paris Saint-Germain dit qu'il est inquiet pour les clubs français, il devrait écouter l'after depuis 2-3 ans parce que ça fait un moment quand même qu'il y a des inquiétudes à avoir pour notre football et pour notre championnat. Mais c'est sûr que Lens cherche un attaquant. Pour le coup, ce soir, Brest, ils ont deux avancantes pour la Ligue 1 qui sont très bien.
Ouais.
Que ce soit Ajorque ou même Mama Baldé. Mais pour le coup, c'est gardien et derrière qui sont un peu plus en difficulté. Donc, t'as des équipes qui sont plus à l'aise offensivement, mais qui n'ont pas de défense. T'en as d'autres qui ont une défense, mais qui n'ont pas d'attaque. Et forcément, ça va pas être facile de se renforcer quand t'es un club de Ligue 1 aujourd'hui.
D'ailleurs, Lionel, je fais un petit pari ce soir. Bon, là, c'est par rapport à Brest. Maïeki fait un début de saison très compliqué avec Brest et le remplaçant de Brest a fait une très bonne rentrée et moi je pense qu'il y a moyen qu'il devienne rapidement le numéro 1.
Oui, on est tous d'accord avec toi là, j'ai envie de te dire
tout à l'heure, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Et bon après si en
toi, t'es content de Risser?
C'est une bonne pioche, hein.
Très content. Je pense.
C'est une super pioche. Il a tout. Il a les réflexes sur sa ligne, le jeu au pied, l'autorité. Non, je pense que d'ici 2-3 ans, ça peut être l'un des meilleurs gardiens de notre Ligue 1.
Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire ce soir, mais par exemple, on l'avait vu lors du deuxième match au Havre, il avait fait des interventions importante et pour l'instant alors c'est tout nouveau mais effectivement on a plutôt de très bons a priori sur lui hein, Lionel.
Moi j'aime beaucoup, il est calme. Après voilà, on l'a décrit, au pied il y a pas de souci, il fait des arrêts sur sa ligne, il est autoritaire, il influence beaucoup sa défense, il parle, ça c'est très important. Parce qu'on voit très rarement quand même sa défense prendre l'eau. Et ça, ça veut dire aussi que normalement, ok, il y a le travail de l'entraîneur, mais un gardien, un très bon gardien, arrête les buts avec la voix. C'est-à-dire qu'il est capable de placer ses pions quand il faut, là où il faut. Et lui, là, j'ai jamais vu sa défense être un petit peu gênée comme ça sur les coups de pied arrêtés, tout ça. Ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Mais par contre, sur les attaques construites des adversaires, j'ai jamais vu l'attaque lensoise être prise à défaut comme ça. Ça veut dire qu'il a de l'influence.
Moi, il y a un truc qui me plaît beaucoup chez ce genre de jeunes joueurs, c'est leur trajectoire. Bon, il est formé à Strasbourg, mais ensuite il fait 30 matchs à Dijon en national. Donc la nationale qui est aujourd'hui un championnat quand même très compétitif. Et ensuite, l'année dernière, il fait 19 matchs en Ligue 2 au Red Star. Et c'est aussi Chevalier qui avait été prêté, lui, à Valenciennes, par Lille. Donc en fait, c'est vraiment des championnats qui sont formateurs. Il est grand et on verra après, hein, ça deviendra un grand gardien. Mais en tout cas, il a la taille, il a la formation, il a l'expérience à 20 ans, avoir déjà deux
saisons pleines. Puis il est français, il n'y a pas beaucoup de gardiens français dans le championnat.
Oui. Non, et puis, franchement, c'est une bonne pioche de la part de Lens qu'ils ont été chercher ce
après, ils ont un mec qui est directeur sportif, il connaît un petit peu le métier.
C'est vrai aussi.
Dans les cas, ça peut aider pour choisir un bon gardien. En tout cas, bravo effectivement à Lens pour ce choix de gardien et pour cette victoire. Merci beaucoup Julien, supporter de Lens, d'avoir été avec nous. On va parler de Brest, tonnerre de Brest. Et là, c'est plus difficile. On accueille Nicolas, supporter du Stade Brestois. Nicolas, comment tu vis ce début de saison? Parce qu'on en a parlé, Éric Roy... laisse transpirer son spleen un petit peu. Il a dit cette semaine, j'ai le 16e budget, on n'a plus d'argent pour recruter. Vous avez perdu votre colonne vertébrale et forcément, ça a un impact énorme. Bizot, Camara et donc Lesmelou cette semaine. Et vous avez beaucoup de difficultés à recruter. Il n'y a que 5 arrivés. Je prends dans les 5, hein, et Bimbe qui devrait signer là. Demain, il est attendu pour la visite médicale. Donc, c'est dur là, ce mois d'août pour vous.
Ouais, bonjour à tous. C'est dur et je j'étais complètement d'accord avec ce que disait Kevin tout à l'heure sur les signaux qui sont envoyés plus que sur le match du soir parce que Lens reste une belle équipe. Les signaux qui sont envoyés entre l'entraîneur qui est très crispé. Voilà, il y avait l'intervention de Kenny Lala qui a rajouté, manquerait plus qu'il se tape dessus dans le vestiaire. Et puis on sera top. Je suis assez inquiet parce que il parlait, Kenny Lala, de jouer à 12 contre 11. Mais là, sur chaque match, il joue à 12 contre 10 parce qu'il y a toujours un joueur de Brest qui fait une cagade. Sur les premiers matchs, on a eu Jardonnet. Là, c'est le gardien aujourd'hui. Même les cadres sont pas vraiment au niveau. C'est assez inquiétant parce que c'est une équipe qui risque de jouer le maintien. Et pour jouer le maintien, alors certes, sur la qualité, on pourra parler de l'effectif et reparler de l'effectif, mais... concrètement, mentalement, va falloir passer de la Ligue des Champions au maintien et j'espère que les cadres vont pouvoir se remettre dedans aussi. Quoi,
mais quel cadre
à l'endroit.
Bah attends, Ajorque c'est un cadre, Del Castillo c'est un cadre.
Lui tu l'oublies, il est complètement
Magnetti,
à la pointe.
Magnetti c'est un cadre, Lala c'est un cadre.
Ajorque c'est compliqué pour être un cadre, tu peux pas.
Non mais
pas...
t'as quand même des cadres sur toutes les lignes là du côté.
Ouais, pour moi tes vrais cadres tu les as perdus.
C'était la colonne vertébrale de ton équipe.
Il est là, mais ils sont là, les cadres. Les cadres, c'est la colonne vertébrale. Quand tu mets des vrais cadres, c'est la colonne vertébrale. C'est des mecs de vestiaire, des leaders de vestiaire. Ce sont ces gars-là. Et ces gars-là, tu les as perdus. Et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué. Là, ce qu'est en train de vivre Brest actuellement, c'est ce que moi, j'ai vécu à une autre époque. Avec la JOCR, on faisait la Champions League, on était tout le temps qualifiés. En numéro 1, c'était le maintien. Numéro 2, c'était se qualifier le plus vite possible, enfin avoir le maintien le plus vite possible pour aller chercher l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de budget pour aller chercher des petites augmentations parce qu'on était les smicards à l'époque, c'était comme ça parce qu'on avait le plus petit budget de Ligue 1. Ça c'était acquis, mais par contre la grosse différence, c'est que nous on pouvait s'appuyer. Alors à chaque fois, on perdait nos cadres. On perdait les chiffons, on perdait le mec qui était revenu dans l'année, il était venu pour se relancer, on en perdait un ou deux grands maximum. Là, Brest, ils en perdent trois qui sont très Bizot, Camara, bah, la preuve,
il laisse mieux. Surtout sur une équipe qui jouait avec la Grinta, plus que leur, c'est des bons joueurs.
Hein. En plus de ça, mais en plus, nous, ce qu'on pouvait faire, ce qui nous sauvait à l'époque, c'est pour ça que je parle à l'époque, c'est qu'on s'appuyait sur notre centre de formation. Et à chaque fois, on sortait des nouveaux joueurs qui, 10 matchs plus tard, jouaient en équipe de France. Là, c'est pas le cas de Brest. Le problème, c'est qu'il faut y aller à coup d'argent, parce que ces joueurs-là, ces cadres-là que tu viens de perdre, qui étaient ta colonne vertébrale, eh ben, il faut les remplacer. Pour moi, aujourd'hui, ils sont pas remplacés. Et je pense que aujourd'hui, le signal, le plus gros signal qui a été envoyé, que j'ai vu moi, c'est à la fin du match, la colère d'Éric Roy, parce que ce n'est pas que la colère, à mon goût, sur ce match-là, c'est une colère sur un ensemble, parce que s'il continue comme ça, honnêtement,
accumulation de frustration. Quoi.
Oui, je pense. Moi, je pense. Et donc, il faut y remédier très vite, parce que quand tu vas dans cet engrenage-là, que les engrenages commencent à tourner dans le mauvais sens, tu finis à 10 contre 11, tu as l'impression que c'est la faute des arbitres, tu as l'impression que je sais pas si ça vous rappelle quelque chose de l'année dernière, les corruptions et compagnie, je peux vous dire que dans le vestiaire, c'est difficile à vivre, et quand tu as le budget de Brest et que ça se vit, tu vis comme ça dans le vestiaire. Attention.
Kevin, par rapport à Brest.
Les deux prochains matchs sont à domicile. Je pense qu'il faudra mettre les bouchées doubles pour avoir des points et se remettre à l'endroit, que sinon, ça va être compliqué.
Ouais, oui. Nicolas, il y a un match très important parce que c'est le championnat de Brest, on va dire, avec la réception du Paris FC en J4. Mais quand tu regardes justement les effectifs de Ligue 1, Kevin, on a vu Metz, on a vu le Paris FC, on a vu Lorient, etc. Tu te dis quand même que Brest a de quoi se maintenir. Le 11 de départ, il y a de la qualité. Alors évidemment, tu es obligé de revenir sur terre. Et ce que tu as vécu l'an dernier, c'était magique avec la Ligue des Champions et même la 9e place. Alors c'est dur pour les supporters et même pour les joueurs, mais il n'y a pas non plus à être alarmiste.
Il n'y a absolument pas à être alarmiste sur le 11 de départ. Après, sur le banc de touche, là, c'est déjà plus difficile. C'est déjà plus difficile. Alors certes, tu n'auras pas la Coupe d'Europe, mais je pense que c'est plus, comme disait Lionel, une espèce de frustration latente, parce que l'année dernière, t'as connu le Real, t'as connu le Barça, t'as connu des choses incroyables, et donc là, t'avais de quoi même faire un meilleur début de saison, et là, du coup,
et mentalement, t'étais costaud l'année dernière. Même quand tu perdais, tu faisais des bons matchs, tu faisais des bonnes prestations.
C'est vrai que là, du coup, il y a la frustration qui s'accumule au fait. Bon, t'as des trucs moins glamour à jouer, beaucoup moins glamour à jouer que l'année dernière. Ok, ça reste la Ligue 1. Mais tu commences mal, puis tu perds un cadre, tu perds un deuxième cadre avec Lesmelou. Et là, t'as recruté un gardien, t'as fait un gros choix. Boum, le gars, il t'explose dans les mains aujourd'hui en deuxième mi-temps. Et en plus, tu finis à 10 et t'as un entraîneur agacé et t'as un joueur agacé. Donc en fait, c'est ce que disait Lionel, c'est une succession de frustrations qui fait que bien que tu aies un 11, voire 12, 13 joueurs niveau Ligue 1, pas de problème, et que tu peux encore peut-être en recruter un avant la trêve, plus le fait que tu te dis que le collège des présidents de Ligue 1 a mal travaillé sur les dernières années et que donc t'es en galère financièrement. Je pense que quand même psychologiquement, pour Éric Roy notamment, qui est quand même un compétiteur qui a été sur la vague du succès, et là tu vas te retrouver là après ce début de saison, c'est pas facile.
Ouais. C'est dur en tout cas pour Brest en ce début de saison. Un seul point pris après 3 journées en J4, ils recevront le Paris FC. On rappelle donc que Lens a gagné 3-1 en ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Dans quelques instants, on va parler du choc entre l'OL et l'OM. On a J-2 de l'Olympico. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous, supporter brestois et supporter marseillais, lyonnais. On vous attend au 32-16 sur RMC. On parlera également du Mercato avec la fin de Miko Tadze à Lyon. L'histoire d'amour aura duré seulement une saison. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli. On est ensemble jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Lionel Charbonnier. On vous attend au 32-16, supporters lyonnais, supporters marseillais. On est à J-2 d'un Olympico qui s'annonce déjà crucial. Lyon, tout va bien, on rappelle, ces deux matchs de victoire. Et Marseille, il y a une défaite face à Rennes, puis un succès face au Paris FC. Messieurs, on sait qu'on est en période de mercato. Tout ça va se terminer lundi soir. J'aimerais déjà une réaction sur le départ de Miko Tadze. C'est une information RMC. Fabrice Hawkins nous a donné des informations détaillées. Donc, le buteur de l'OL va partir. Les clubs Villarreal et Lyon se sont mis d'accord. On parle d'une transaction de 30 millions d'euros. contrat de 5 ans et le joueur est attendu dès demain en Espagne. Moi, franchement, j'ai les boules. Ce joueur, il a commencé sa formation à Lyon. Il rêvait que d'une chose, c'est de revenir à Lyon. C'est ce qu'il a fait l'été dernier avec un transfert en provenance de Metz. C'est sa première saison vraiment où il pouvait être titulaire, qu'il n'était plus dans l'ombre d'Alexandre Lacazette et il doit partir.
Non, mais là, c'est peut-être pas la première fois, mais c'est une des rares fois quand même dans l'histoire du football français où le joueur ne veut pas partir, l'entraîneur ne veut pas qu'il parte, le club ne veut pas qu'il parte, et le gars va partir. Le gars va partir parce que on est dans une situation aujourd'hui à Lyon, et on le sait, c'est pas une surprise, mais c'est quand même très, très triste de voir un joueur partir après un an. Alors que, comme tu l'as bien décrit, voilà, il pouvait enfin profiter de la première année d'adaptation. Il revient, il découvre un très grand club, enfin son très grand club, mais il avait plutôt brillé à Metz, à l'Ajax, c'était plus difficile. Et là, il fait un très bon début de saison. Son équipe a besoin de lui. C'est un poste où c'est très, très difficile de trouver un joueur. Alors, il part pour 30 millions, certes, mais c'est pas non plus 45 ou 50.
Il leur fallait 40, on rappelle, à Lyon par rapport à la DNCG. Là, c'est 30.
Ouais, mais il y a eu aussi Koumbédi qui est parti.
Oui.
Est-ce que c'est ajouté ou est-ce qu'il faudra encore en trouver 10, je sais pas. Mais c'est ce que je disais. J'avais fait un avis dans l'after, à la fin, là, juste avant la reprise, à la fin de l'été de l'after, où je disais qu'en fait, aujourd'hui, les clubs français, ils sont plus là pour gagner des titres, ils sont plus là pour être champion de France, ils sont là pour équilibrer les comptes. Ils sont là pour équilibrer les comptes, pouvoir passer la DNCG ou le fair play financier pour leur permettre de se réengager. On en est, alors on sait, encore une fois, je le disais tout à l'heure, que depuis des mois, des années, il y a un truc qui couve, qui dit que ça va être très très difficile pour les clubs français, mais là on est en plein dedans. Là on est en plein dedans parce que ce Lyon-là qui doit vendre un joueur vraiment pour sa survie, même si ils ont failli être rétrogradés, on sait, mais c'était Textor. On se dit, bon bah Textor est parti, on peut-être avoir quand même quelques mois, allez, un ou deux mercato pour se rééquilibrer. Non, dès le premier mercato, alors que t'as fait un super début de saison, tu te retrouves dans cette situation. Donc encore une fois, c'est triste et vraiment alors, très grave pour le football français.
Moi je mettrais juste un petit bémol par rapport à tout ça. Moi je suis entièrement d'accord avec Kevin, avec tout ce qu'il vient de dire. La situation lyonnaise aujourd'hui, elle n'est pas due qu'à la mauvaise situation financière des droits télé et tout ça.
Pour moi, c'est parlé de Textor aussi.
Ouais. C'est pour moi le premier, celui que tu mets là, tu mets en avant. Enfin moi, je vais le mettre en avant comme ça. C'est Textor parce que déjà dès le départ. Pourquoi je le mets en avant aujourd'hui? Parce que dès le départ, j'ai dit attention. Je demande à voir. Moi, ce mec-là, il pue. Excusez-moi, mais ça
s'est vérifié.
Comme par hasard. Donc aujourd'hui, bien évidemment. Alors je vais plus tirer sur l'ambulance parce que je pense en plus que ils ont enfin trouvé sûrement un très bon président, une très bonne présidente. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a la tête sur les
épaules. J'aimerais vraiment qu'on parle de Miko Tadze parce que on a plus de beaucoup de belles histoires.
Mais comment tu veux faire? Tu
le joueur qui est dingue de son club de cœur, qui refuse Monaco.
C'est fini ça, c'est fini oui, pendant un bon bout de temps.
Miko Tadze, l'an dernier, il refuse Monaco qui jouait la Ligue des Champions. Il voulait absolument aller à Lyon. Il signe à Lyon. Là, c'est pas fake. Je veux dire, il y a des joueurs, tous les deux ans, ils changent de club, et à chaque fois, c'était le rêve de leur vie. Là, c'était une réalité. Et Miko Tadze, il était le numéro un. Il y a même eu Lacazette qui lui envoie un message avant le premier match pour lui dire, voilà, prends la suite, etc. Et il est obligé de partir. Alors, attends, il va à Villarreal, il va en Espagne, etc. Mais je veux dire, c'est quand même d'une tristesse. Des histoires comme ça, ça aurait pu être absolument magnifique. L'enfant de Lyon qui brille dans son club alors qu'il n'avait pas le niveau, ou en tout cas à une certaine période au centre de formation.
Moi, je pense à un truc, j'espère qu'il va revenir un jour ou l'autre qu'il va revenir.
Il est déjà revenu une fois. Hein.
Mais qu'il va revenir parce que là, à la limite, il part peut-être même pour sauver son club.
Oui, il y a de ça.
Parce que, comme le disait Kevin, fort justement, il part à contrario, il part à contre-cœur. C'est pas son truc. Il n'a pas fait de forcing pour partir. Il était investi. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Kevin.
Avec tout le respect, Lionel, que j'ai pour Villarreal, excellent club, le stade de la
Cité Amica,
magnifique club. Mais tu vas à Villarreal quand même. Tu vas pas à Tottenham. C'est fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Villarreal qui sauve l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que Villarreal a tellement plus de budget que nous, alors que c'est quand même à la base être un plus petit club que Lyon. Historiquement, c'est un plus. Ouais, ils ont fait.
Alors ça aussi,
ils ont fait des trucs en Ligue des Champions.
Ça, c'est un vrai problème.
Mais là, c'est un beau club, mais ça reste un club moyen espagnol qui sauve un grand club français. C'est ça aussi. S'il va pas, il je sais pas moi, il va pas à l'Atlético Madrid. Il va dans un club moyen espagnol.
Juste vite fait comme ça, parce que j'ai eu cette semaine une cliente qui est venue à la maison, qui est l'avocate de tous les clubs, les grands clubs turcs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle me dit, mais Lionel, c'est un foutoir terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'Olympique Lyonnais, au-delà de ce qu'a fait Textor, ce qu'il n'a pas fait et tout ça, l'Olympique Lyonnais avait quand même une pseudo-amende de 12 millions d'euros qui pouvait tomber si jamais il ne rentrait pas dans les cordes. Les clubs turcs, ils font ce qu'ils veulent. Où ils veulent, quand ils veulent.
Non, mais par rapport à Lyon, il y a le problème de la DNCG qui est française.
Non, mais entre la DNCG, oui, mais tous les clubs européens, c'est-à-dire que.
Il y a le fair play financier aussi, mais la DNCG, c'était.
Non, mais il n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde.
Mais Lionel, c'est la DNCG qui avait relégué temporairement Lyon en Ligue 2.
Mais là, ils étaient, pour l'instant, ils étaient. Mais la DNCG n'existe pas pour tout le monde. C'est-à-dire que nos clubs français, ils ne sont pas traités de la même manière de tout. Alors, je dis pas que c'est pas bien. C'est très bien qu'il y ait la DNCG, il y ait un flic qui fasse attention aux dépenses. Mais le problème, c'est que tu fais une Coupe d'Europe et que peut-être que Villarreal, eux, ont peut-être.
Non, en Espagne, c'est dur aussi.
Oui.
Oui, c'est le Real.
Il y a quelques années maintenant.
Là, ils ont serré la vis.
Depuis qu'il y a Javier Tebas, c'est quand même.
En Turquie, en Grèce, ou tout ce que tu veux, un joueur comme aujourd'hui, Mikotadze, serait resté. Avec l'envie, ils seraient restés. Ils auraient trouvé l'argent, je ne sais pas comment. Ils ne l'auraient pas trouvé, on n'aurait rien dit.
Mais Lionel, le problème, c'est que la législation est différente selon les pays. Donc forcément, en France, il y a notamment la DNCG. C'est la DNCG qui avait relégué un temps Lyon en Ligue 2. Et c'est envers la DNCG que Lyon doit absolument prouver qu'ils ont les fonds nécessaires pour rester en Ligue 1, d'où ce transfert.
Il y avait quand même une amende de 12 millions à payer. C'était pas la DNCG, c'est l'UEFA. C'est l'UEFA qui mettait 12 millions. Il y avait ce couperet qui devait tomber. Ça, c'est l'UEFA. Bah, qu'ils le mettent pour tout le monde.
Il y avait plusieurs amendes.
Attention, je me fais pas l'avocat. Je veux pas me faire l'avocat du diable, hein. Mais je veux que quand on parle d'Europe et que il y a la libre circulation en Europe et tout ça, bah, faudrait que tout le monde soit traité pareil.
On vous attend, supporters lyonnais, supporters marseillais. On est à J-2 du match entre Lyon et Marseille. Ça sera en clôture de la troisième journée de Ligue 1. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble avec Kevin Gazek, Lionel Charbonnier. Je vous rappelle que Lens a battu Brest 3-1 en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Et dimanche soir, il y a un match combien important. Ça sent la poudre. L'Olympico Lyon reçoit Marseille. On rappelle que l'an dernier, Marseille avait battu les deux fois l'Olympique Lyonnais sur le même score de 3-2. On accueille Mickaël, supporter lyonnais. Bonsoir. Ah non, Mika, t'es supporter lyonnais ou marseillais?
Marseillais.
Oh là là, j'allais faire une terrible erreur. Mais je vois par contre que tu habites à Lyon, je me trompe pas?
Alors j'habite à Décines. Si je suis à...
T'es à côté du stade, quoi.
700 mètres du stade.
Voilà, donc tu seras présent au Parc OL dimanche soir.
Alors très sincèrement, au vu du début de saison, au vu du mercato, qui est une farce, même pas je vais me déplacer.
Mais Mickaël, c'est pas être supporter de foot, ça, oh. On est à deux journées de championnat et tu lâches l'affaire déjà?
Non, alors je lâche pas l'affaire. Ça fait plus de 30 ans que je suis supporter marseillais. À un moment donné, c'est comme dans une relation toxique. Il faut savoir dire stop. Et là, je pense que ce sera peut-être la dernière année, je pense. Où vraiment, j'achèterai les maillots, que ça soit pour mon fils, etc. Qu'on descendra au Vélodrome, parce que c'est vrai que j'ai de la famille et de la belle famille sur Marseille. Je pense que ouais, ce sera la dernière année si ça change pas concrètement.
Non mais Mickaël, alors pourquoi tu es autant dépité? On rappelle ce qui s'est passé. Il y a eu une défaite sur la pelouse de Rennes, il y a eu un succès 5-2 face au Paris FC. Il y a évidemment l'imbroglio Rabiot, on ne sait pas s'il va rester, s'il va partir. Mais l'an dernier, Marseille a retrouvé la Ligue des Champions avec sa deuxième place au classement. Pourquoi tu es autant dépité?
Alors, l'année dernière, je vois par rapport à mon groupe d'amis, etc. De Zerbi est arrivé, tout le monde a commencé à s'enflammer sur la hype de Zerbi. Le Deserbi Ball, le jeu proposé de la part de Zerbi, etc. J'ai dit bon, ok, nouvel entraîneur. Allez, il arrive, il n'a pas encore les joueurs qu'il veut, pas de souci, on laisse couler. L'année passée, pour les 1-0 et des matchs de raccro, etc., je signais. Hein, parce que moi, mon objectif, c'était deuxième place au minimum, au vu de l'effectif, au vu du club que c'est. Pour moi, la deuxième place, c'était le minimum syndical.
Et ça a été le cas.
Ça a été le cas. Donc, très bien, très content, tout ça. Mercato arrive. Bon, le mercato marseillais, on le connaît. Hein. C'est 45 noms, 60 noms par jour ou par semaine pour qu'à la fin, il n'y ait rien qui se passe. Et comme malheureusement, chaque année, arrivé fin du mercato, où là, vite la course, on va dans tous les sens, mais il n'y a rien qui se passe. Soit il n'y a rien qui se passe, soit il y a des, on va dire, enfin, des propos tenus par des présidents, comme aujourd'hui le président de Lille, Olivier Létang, qui nous parle de textes, de ci, de ça et compagnie, alors que quand Paris a sondé Chevalier, a défini les lignes, etc., avant qu'il passe par le LOSC, le président Létang, on ne l'a pas entendu.
Mais donc, Samika, ce n'est pas le problème de Marseille. Là, tu en veux plutôt à Létang.
Ah non, alors ce n'est pas le problème de Marseille. Après, le match qu'on traîne, on aurait pu jouer. Allez, on aurait dû le gagner 9 fois sur 10. Si on le rejoue 9 fois sur 10, on le perd. Le style de jeu proposé, néant. Passe latérale, passe en défense.
Il y a deux beaux temps quand même, Mika. Là, t'es très noir dans ta description.
Mika, même le tirage de sort de la Ligue des Champions, ça t'a pas redonné un peu de baume au corps. T'es sûr que t'es pas supporter lyonnais, en fait?
Oui.
Ah non, promis. Alors, très sincèrement, je me suis dit super, des belles affiches. On va jouer le Real de Madrid, on va jouer Liverpool. Ça, c'est deux clubs, on va dire, qui sont intouchables. Mis à part si, effectivement, entre-temps, l'équipe se réveille, il y a du jeu qui est proposé.
Non mais après le jeu proposé, Mika, excuse-moi, je te coupe, mais de toute façon, on vient de parler de l'état du football français. Si tu peux pas te réjouir un petit peu de la qualité de ton effectif, alors si tu m'avais dit que ça te prend la tête, l'histoire Rabiot par Rabiot, la gestion de la direction,
ça
il y a pas de problème, ça doit être agaçant quand t'es supporter marseillais. Au contraire, mais tu vivais un très très bel été avant le cas la bagarre et le cas Rabiot, sa maman pas sa maman, les sorties des uns des autres. Là, je veux bien que ça puisse saouler les supporters marseillais. Mais là, si tu me dis que parce que vous avez perdu un match, que vous alliez gagner 9 fois sur 10 à Rennes, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, derrière, ça reste Marseille. Il y a quand même un bel engouement depuis le début de ce mercato. Je suis pas fan de toutes les recrues. Certes, il y a des choses à améliorer, mais il y a quand même des idées. Il y a des joueurs qui sont arrivés libres. Moi, je te dis franchement, la seule chose que je peux regretter à l'OM, là, c'est l'histoire avec Rabiot. Mais sinon, tu vas pas me dire quand même que le mercato il est pas intéressant. Il y a le retour d'Aubameyang. On a l'impression qu'il a 31 ans. Il a ses jambes de 30 ans, peut-être pas de 20, mais de 30. Non, il y a quand même des choses qui doivent exciter les supporters marseillais, cher ami.
Alors, bien sûr. Alors, le recrutement Gomez-Medina, je suis super content.
Voilà, par exemple.
C'était deux joueurs que je souhaitais l'année passée.
Bon, bah tu les as. On c'est les une bonne chose.
C'est super. Aubameyang, il y a pas de souci. Très bien. Maintenant, il va être quoi? Titulaire ou il va être en second couteau?
Il y a 50 Obama, matchs à jouer, on s'en fiche qu'il soit titulaire ou pas.
Aubame, je suis content parce qu'il a de l'expérience.
Ça fait déjà 3.
C'est déjà 3. Pas mal, tu vois, Mika, on va te redonner le sourire à la fin de l'after. Non,
Pas de ciao, t'aimes pas?
Comment? Alors, pas de ciao?
Ah oui, ton souci, c'est de Zerbi en fait.
Alors, c'est pas que de Zerbi, c'est un global. Si on prend tous les faits qui sont passés...
Il en fait partie.
Alors, il en fait partie, oui, parce que j'attendais autre chose.
Pacquiao, hein.
Très bien, Pacquiao. Très, très bon aux Pays-Bas, avec le PSV.
Avec Feyenoord.
Ah, pardon, excusez-moi, Feyenoord. Tout le monde l'annonce comme un crack, etc. À l'époque, il y avait un joueur qu'on nous avait annoncé comme un futur crack, qui était Luis Enrique. Il n'y a pas de souci. Il est blessé pour l'instant, on verra quand il reviendra, on lui laissera le temps de s'adapter au championnat français, etc. On verra ce qu'il vaut. Mais sur le papier, on l'annonce comme un crack.
Attends, Mika, là finalement, tu nous dis que le mercato marseillais te plaît, donc je comprends pas.
Alors, trois joueurs me plaisent, Traoré, Je vois pas l'intérêt.
Monsieur Traoré, c'est un des meilleurs joueurs de l'année dernière en Ligue 1.
Traoré, il est signé aujourd'hui, on le rappelle. Ouais. Il était prêté à Auxerre l'an dernier. Et donc là, il arrive à Marseille.
Il était moins bon l'année dernière, quand même.
Les
six premiers mois, il était pas mal.
Sans manquer de respect, ouais. Il était bon à Auxerre.
Ah, il a ruiné Marseille.
Même si je sais qu'il y a Monsieur Charbonnier qui est parmi vous, et j'ai plus le grand respect, et le nombre de fois où j'ai pleuré devant ma télé quand il tuait l'équipe de Marseille, à lui tout seul. Avec les Olivier Capot, avec les Djibril Cissé, avec les Kalilou Fadiga, les Yann Lachuaire et compagnie, j'en ai pleuré. Hein. Des Auxerre-Marseille ou des Marseille-Auxerre.
Vous m'avez fait pleurer aussi. Une fois, j'en ai pris quatre, j'ai pas vu le jour.
Hein. Bon, Mika, ouais. En tout cas, on veut donner le sourire. On espère que tu vas retrouver la pêche. Tes supporters marseillais, la saison n'est absolument pas foutue. On en est à deux journées.
Est-ce que t'es inquiet?
Dimanche, il y a un gros match. Donc...
Mika, t'es inquiet pour le match contre Lyon, là? Est-ce qu'il arrive trop tôt pour toi ou?
Il arrive beaucoup trop tôt. Parce que quand on regarde le match contre le PSG, contre Paris FC, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler parce que je regardais le match et ça faisait 20 minutes ou 25 minutes que tu faisais tourner le ballon. Et à un moment donné, tu as Daniel Bravo qui dit « Mais ils attendent quoi pour casser les lignes? Ils attendent quoi pour déborder ?» Ils pensent que l'équipe va sortir alors que ne sortait pas. Donc, c'est ça en fait. C'est que ça prend pas les couloirs, ça prend pas les intervalles. Bon. On a l'impression que c'est des
t'en veux à l'entraîneur.
Mika, ne sois pas trop négatif.
Une petite cassette de Chris Waddle, ça va aller.
Ah voilà, non, ça c'est une très bonne idée. Effectivement, voilà. Tu mets une cassette de Chris Waddle, tu vas retrouver la pêche. On rappelle quand même que Marseille a gagné 5-2, qu'il y a eu un but sur pénalty, mais il y a eu aussi un pénalty manqué. Donc il y a eu quand même des buts de marqués dans le jeu. Mika, retrouve le sourire. Dimanche soir, ça va bien se passer. Tu seras dans ton canapé à écouter RMC et tu suivras Lyon-Marseille et on verra ce qui se passe pour les Marseillais. Il faut que tu retrouves le sourire.
Juste pour la petite anecdote, c'était un de mes premiers matchs. Et là, c'est moi qui ai pleuré. Ce jour-là, vous avez rigolé. Centre de Chris Waddle. Je vois Abedi Pelé. Moi, j'arrivais de troisième division à l'époque, l'équivalent du national maintenant.
Là, tu vois, il y a le talent.
Je regarde, mais je le vois déborder. Je regarde de l'autre côté. Il y avait Abedi Pelé. Il était carrément dans le coin de la ligne médiane là-bas, à l'opposé. Je dis, c'est bon, il centre. Alors, je sors, j'anticipe le centre. Je dis, de toute façon, il y a personne. Fallait que je plonge comme ça, tout seul. J'étais jeune gardien au stade Vélodrome. Je dis, il y a personne, je plonge pas, je la laisse passer. Au moment où je la laisse passer, il y a Abedi Pelé qui arrive comme un missile, mais en deux secondes, il avait fait 50 mètres. Il était là, il met une tête plongeante, à rentre, à tape la lucarne et tout ça. Le but, il rentre. Alors, complètement de ma faute, hein. Complètement. Alors, j'ai dit, waouh, ça va vite. La Ligue 1, c'est complètement différent, ça va hyper vite. À l'époque, il y avait le téléfoot et il y avait le top 10. Des plus beaux buts. Et ce but-là est rentré troisième. Alors avant qu'il sorte, et je voyais ma cagade tous les dimanches matin. Je voyais ma cagade comme ça. Et là, j'ai pleuré. Abedi m'a fait pleurer. Chris Waddle, il te met un centre au cordeau. Enfin, un truc de fou.
Le talent, c'est, évidemment. Sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'Abedi Pelé, il n'y a pas de Chris Waddle à l'OM, mais bon.
Ils ont d'autres joueurs.
J'ai pas l'impression qu'il ait exactement le même talent que son papa, mais on lui souhaite évidemment beaucoup de réussite. Merci beaucoup à Mickaël, supporter marseillais, d'avoir été
avec nous. Mickaël.
On accueille dans quelques secondes un supporter lyonnais, ça sera Sylvain. Ah non, Sylvain, il est avec nous. On part pas en publicité, tout va bien. Alors j'étais inquiète, j'entendais la publicité dans mon oreille. Sylvain, supporter lyonnais. Bonsoir Sylvain, dimanche soir, Lyon-Marseille, c'est l'Olympico. Est-ce que tu es confiant? On rappelle que pour l'instant, tout va bien à Lyon. Il y a eu deux matchs, deux victoires.
Ouais, bonsoir Karine, Lionel et Kevin. Il y a trois heures, j'étais confiant.
Ah. Et tu l'es plus, toi non plus? Oh.
Et là, un peu moins, parce que Miko Tadé en moins, on n'a pas de numéro 9. On risque de jouer avec un faux 9 ou un petit jeune. Depuis le début de la saison, contrairement aux autres années, je trouve que on n'a pas beaucoup d'occasions. On subit pas mal dans les matchs. Alors, on marque vite, donc on avait plutôt tendance à attendre les équipes. Je crois qu'on a 49% de possession sur les deux premiers matchs, c'est ce qui ressemble pas beaucoup à l'OL. Les scores reflètent pas forcément les physionomies. On n'a pas beaucoup d'occasions, ce qui veut dire qu'il faut un 9, quoi. Il faut un tueur devant. Et là, j'ai peur que contre Marseille, qui est encore en rodage, sur 90 minutes, j'ai peur que ce soit un peu juste.
Alors, on a effectivement vu un match face au promu Messin, mais tu parles de Miko Tadze qui sera plus là. Mais tu as vu Fofana, il a fait un très bon match contre Lyon. Tu as Tolisso qui a été le taulier. Tu as eu aussi le buteur Karabek qui vient d'arriver. Et tu as eu des bons entrants aussi lors de ce match-là. Tu pas des petites choses qui te permettent d'être assez confiant pour dimanche?
Ah si, si, si. Moi, j'aime beaucoup. Je suis super surpris par Morton. On a un milieu de terrain avec Tessman.
Très bon. Super, ouais.
Morton, c'est très fort. Je trouve même qu'il bonifie Tessman avec ce système à 2-6. Tessman en sentinelle était beaucoup moins efficace. Avec ce système à 2-6 et Tolisso un peu plus haut, c'est très costaud au milieu. Là où il y a, d'ailleurs, il y a peut-être des lacunes en face au milieu de terrain à Marseille, donc on peut peut-être gagner la bataille du milieu. Par contre, l'avant-centre.
Après, Miko Tadze, il va peut-être jouer ce week-end, d'après ce que j'ai entendu. C'est pas sûr qu'il
joue
pas.
Non, apparemment.
Alors, normalement, il part demain en Espagne. S'il part demain en Espagne pour passer la visite médicale, c'est terminé. Hein.
Je sais pas, parce que Fonseca, il avait dit avant.
Oui, mais c'était avant. Okay. Et l'information, en tout cas, de Fabrice Hoggins, donc information RMC, c'est joueur attendu en Espagne demain. Donc là, t'enchaînes, visite médicale, signature, et c'est terminé, quoi.
Ouais, Sylvain. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que oui, Fofana, c'est un ailier. Karabec, bon, il est rentré 10 minutes, il a marqué.
Mera a fait une bonne entrée aussi.
Ouais, mais c'est un 8. C'est un 8.
Mais oui, non, mais je veux dire, on a vu des bonnes choses quand même.
Bien sûr.
Face à Metz, c'est que Metz, mais c'est pas mal.
Ouais, ouais. Et puis, contrairement aux autres années, même pendant les matchs de préparation, c'est bizarre. On ne concède pas beaucoup d'occasions. Alors qu'avant, on avait tendance à marquer beaucoup de buts, mais en prendre beaucoup. Là, on ne concède pas beaucoup d'occasions. Donc, on est plutôt costaud. Mais devant, on a moins d'occasions. Avant, on marchait beaucoup par vague. On marquait beaucoup de buts. On a eu historiquement des très bons avant-centres. Et là, on en a plus un. Donc, j'ai peur que devant, ça.
Bah là, c'est sûr que le départ de Miko Tadze, je vais pas parler de catastrophe, parce que la catastrophe, ça aurait été de descendre en Ligue 2, ce qui n'a pas été le cas, heureusement, pour Lyon et pour le football français, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que là, si tu perds ton avant-centre, ouais, derrière, c'est compliqué. Hein. On disait que même Lens, vous allez peut-être vous mettre sur Sinayoko, je sais pas. c'est le joueur que tout le monde veut, mais que Lionel veut garder à la Baie des Champs. Mais en tout cas, il y a forcément un joueur qui va devoir arriver parce que alors ce sera peut-être moins cher, ce sera peut-être moins expérimenté. Sinon, il y a Stas hein, du côté de Saint-Etienne.
Ah ouais, ça c'est une belle idée là. L'ennemi qui va recruter, ça s'est fait hein, de ça toute façon évidemment. On rappelle que Miko Tadze, c'était 17 buts et 11 passes décisives en 47 rencontres. C'était l'an dernier qu'il avait déjà inscrit un but cette saison. C'était en ouverture du championnat. On va se retrouver dans quelques instants, partir en Italie. Le Milan qui respire. Le Milan qui s'est imposé lors de la deuxième journée de Serie A. On se retrouve sur RMC dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
Avec Kevin Gaz, avec Lionel Charbonnier, on part tout de suite en Italie. On va retrouver notre drôle de dame spécialiste du football italien, Daniele Manuccia. Bonsoir Daniele.
Bonsoir à toutes et tous.
Ça jouait ce soir en Italie. C'est vrai que Lionel, tu peux nous le faire en italien, ce moment avec Daniele. Le Milan qui s'est imposé sur la pelouse de Lecce. Mais c'était difficile. Hein. Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir le Milan ouvrir le score. Hein.
Oui, en réalité, Milan, il a mis un but après 4 minutes qui a été annulé pour une poussée de Gabbia sur le défenseur de Lecce. Mais c'est vrai que ce n'était pas un match simple. Je pense que ça va un peu avec les qualités de ce Milan, les qualités du jeu d'Allegri. Ça ne va jamais être un jeu flamboyant. Et il venait, le Milan, on vient de le dire, d'une défaite face à la Cremonese à la maison. Que Allegri il avait minimisé en disant que le Milan manquait des perceptions de danger, mais en réalité le Milan il a montré des faiblesses défensives, offensives, et là ce soir aussi il manquait Leao qui est toujours blessé au mollet, il manquait Pulisic qui est rentré dans la deuxième mi-temps, il a eu un gros impact sur le match,
il a marqué
le deuxième but.
Mais oui.
Ouais. Il a marqué le deuxième but et le score il a été ouvert par Loftus-Cheek sur un centre de Modric sous coup franc. Et Modric, il joue avec les mains dans ses poches. On va dire en Italie, il a la classe pour jouer jusqu'à 50 ans peut-être. Mais c'est pas.
Il avait marqué le premier match, non?
Oui, non aussi, il avait pas mal joué, mais Milan, il avait quand même perdu à la maison contre Cremonese, il avait pas créé énormément d'occasions. Là, ce soir aussi, ils ont créé des occasions, mais c'est une équipe qui manque quelque chose plus que la perception de danger. Ben là, il vient de recruter Nkunku, donc c'est déjà une chose. Il cherche un défenseur central titulaire. On parlait de Akanji dans les dernières heures, excuse-moi. J'ai entendu le nom de Foyt de Villarreal. Et il cherche aussi notamment un numéro 9, parce que Jiménez, même s'il vient d'arriver lors du dernier marché d'hiver, payé plus de 35 millions, apparemment il est pas dans les plans de Milan. Avant le match, Taré, il a dit que oui, il aimerait bien l'échanger avec Dovbyk de la Rome. Après les matchs, par contre, Allegri, il a dit que ce soir, il a pas mal joué. Ben, ce soir, il a pas mal joué, mais il a pas bien joué non plus. Hein. Il était très faible dans tous les duels qu'il a eus. Il a quand même raté une grosse occasion, la plus grosse occasion de la première mi-temps, sur une belle passe en profondeur de Fofana. Donc voilà, c'est un point faible, le numéro 9 de Milan. Mais il faut dire, voilà, ça va être une autre équipe avec Leao et Nkunku aussi au niveau de la tactique, parce que là le Milan il défend avec un 5-4-1, il attaque avec un 3-4-2, on va dire, avec Salemakers et Loftus-Cheek derrière Jiménez. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Leao, Nkunku? D'ailleurs, comment ils vont jouer ensemble, Leao et Nkunku, parce qu'ils aiment bien jouer tous les deux plus ou moins vers la gauche. Donc c'est un peu une équipe qu'on doit encore comprendre, et je pense qu'Allegri aussi il doit encore comprendre. Il y a plusieurs doutes sur cette équipe, mais voilà, là il va y avoir la pause pour les équipes nationales, et je pense que ça va lui faire du bien aussi la fin de marché.
Daniele, t'en as parlé, hein, donc Christopher Nkunku, le français qui passe de Chelsea à l'AC Milan. On parle de 43 millions d'euros bonus compris, mais c'est une fortune quand même, parce que à Chelsea c'était compliqué. Non, oui, ça vous paraît pas énorme.
Après Nkunku, moi c'est un joueur qui a été tellement performant, il a quand même été.
Mais oui, mais il a été beaucoup blessé aussi, il a beaucoup moins joué à Chelsea.
Meilleur joueur quand il a acheté par Chelsea, c'est quand même.
Oui, c'est top.
Meilleur joueur de Bundesliga. Après malheureusement il se blesse avant la Coupe du Monde 2022. Ça reste un joueur qui est très polyvalent, qui peut marquer des buts, qui peut passer, qui peut jouer 10, qui peut jouer ailier.
Mais qui doit se relancer là.
Mais après c'est clair que c'est pas donné. Maintenant ça reste un jeune joueur, il est encore jeune, hein,
27. Nkunku, voilà. 27 ans.
Enfin, je veux dire, il a encore de belles années pour lui. Mais ça reste un joueur qui est dans la force de l'âge et qui a je pense encore 5, 6, 7 ans devant lui de très très haut niveau. Et moi je trouve que c'est un bon choix. C'est un bon choix. Certes, c'est cher.
Façon,
je suis d'accord, c'est cher, mais c'est un bon choix.
C'est un bon choix pour le joueur et pour le Milan, selon vous, pour les deux.
Je pense. Il a aujourd'hui le Milan, c'est son niveau. Il avait brillé en Bundesliga. On peut considérer que le Milan c'est quand même au-dessus de Leipzig. Peut-être que la marche Chelsea avec tout ce qu'il a connu là-bas.
Il y avait de toute façon une armée de Mexicains dans l'effectif.
L'effectif pléthorique, impossible de s'imposer, des blessures, etc. Non, je pense que Milan c'est une belle étape.
Lionel, pour toi c'est un transfert important parce qu'il y a la Coupe du Monde. Alors effectivement, là il était plus dans le groupe bleu, mais Didier Deschamps aime son profil. Il a déjà été un international français.
Il faut qu'il retrouve son niveau. Bien il n'a pas assez joué. Donc là, va falloir qu'il se fasse une place au Milan AC. Daniel a entièrement raison. Comment est-ce qu'il va être utilisé par rapport à son profil? Parce que pour l'instant, avec ce c'est quoi 5-4-1, hein, 5-4-1 qui se transforme à
3-4-2-1.
3-4-1, ouais. Alors savoir où est-ce qu'il va être mis, est-ce qu'il ne va pas rechuter dans ses blessures. Il faut faire attention. C'est quand même un joueur qui a quand même beaucoup de vitesse. Qui dit vitesse dit aussi attention au. Alors là-dessus, je fais confiance quand même aux Italiens. Ils sont forts et notamment au Milan AC. Ils savent remettre ces joueurs-là sur pied. Donc je pense que c'est un bon choix pour Nkunku. De signer au Milan AC. Est-ce que c'est un bon choix pour le Milan? Je ne sais pas. Dans la continuité, je ne sais pas. Est-ce qu'il fera? Parce que je pense que c'est très cher. Est-ce qu'il aura le rendement, je parle en quantité, de matchs qu'il va faire dans l'année? Je ne sais pas.
On va suivre ça. En tout cas, on rappelle que Christopher Nkunku, deux Français internationaux aussi comme lui, Mike Maignan et Youssouf Fofana. Merci beaucoup, Daniele, d'avoir été
ciao,
à nos côtés. Merci beaucoup, Lionel.
Voilà, merci Karine. Merci à tous.
Belle nuit à ciao, tous Karine. Sur RMC. Dans quelques instants, ciao, mes amis. C'est les nuits du Khazar enchaînées. Le duo complètement ciao, barré. JC Drouet, Julien Khazar avec un invité exceptionnel, Jason Chicandier. Voilà, la Libre Antenne, c'est dans quelques instants sur RMC. Belle nuit à tous.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.